Bonjour, très chers auditeurs du podcast Get More. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Axel Césarin. Alors, Axel, qui êtes-vous?
Qui je suis? C'est une bonne question. Je suis déjà une Française expatriée en Irlande. Je vis à Cork depuis 6 ans. Ma famille vient de la Guadeloupe. Ils ont
D'accord.
immigré en France métropolitaine dans leur jeunesse pour faire leurs études et puis finalement sont restés pour nous élever, moi et mes 2 sœurs. Donc je suis l'aînée d'une fratrie de jeunes filles et ce qui fait qu'on m'a vraiment élevée pour être un rôle modèle, on va dire, pour
Magnifique.
elle. Donc voilà, exactement. Donc beaucoup de discipline, beaucoup d'attentes envers moi, ce qui fait que je suis très, très, très. J'ai beaucoup d'attentes envers moi-même.
D'accord.
J'essaie toujours, voilà, toujours. Je suis quelqu'un de très engagé. Je fais partie d'un comité pour les célébrations d'Africa Day dans ma ville. Donc, ce qui permet de célébrer un peu la culture africaine et à des afro-descendants comme moi, puisque je suis caribéenne, à Cork, et de faire découvrir aux Irlandais notre culture. Donc, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir et qui fait partie de ce que je fais pour rendre à la communauté, parce que je suis quelqu'un qui aime rendre service. Et c'est quelque chose que je fais dans ma vie professionnelle tous les jours, puisque je travaille en service client.
D'accord. Et quand vous parlez de cette communauté, comment vous avez appelé ça? D'origine
Africa
africaine?
Day, oui,
Oui,
les
l'Africa Day, les choses
afro-descendants.
comme ça. Vous êtes nombreux à Cork?
Ah oui, on est assez nombreux au niveau des afro-descendants à Cork, tout simplement parce
D'accord.
que l'Irlande reçoit énormément de personnes qui viennent de pays d'Afrique anglophone, que ce soit le Nigeria ou d'autres pays. Et du coup, on a une forte communauté française, ce qui fait qu'on a certains Français, effectivement, d'origine du nord de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne. Donc on a énormément d'Afro-descendants et du coup un peu de Caribéens également qui sont présents
D'accord,
ici.
d'accord. Je vous aurais plus vu à Dublin, parce que comme j'ai vécu à Dublin, j'allais peu souvent à Cork, je dois l'avouer, mais je les voyais plus à Dublin, effectivement. Excellent.
Attention à ne pas dire aux Corkiens qui pensent que c'est la capitale de
Non, on ne va pas leur faire ça.
l'Irlande.
Et alors, vous venez d'origine d'un pays du soleil, et vous vous retrouvez dans ce qui est un pays de la pluie. Ça se vit comment?
Ça se vit difficilement. Je crois qu'on s'habitue jamais autant irlandais à la pluie qui tombe et à l'humidité. L'hiver est particulièrement difficile. Il faut mettre des choses en place pour garder un bon état d'esprit et vraiment essayer de garder son humeur au plus haut parce que c'est évidemment dehors, il pleut, il fait gris, des fois on voit pas le soleil pendant plusieurs jours. Donc il faut trouver des moyens de s'amuser, de prendre soin de soi et de passer l'hiver en attendant que de meilleurs jours arrivent. Comme maintenant, on y est presque, il fait encore un peu ce temps hivernal, mais on arrive à des jours un peu plus doux et on espère un peu plus ensoleillé.
Et alors justement, ça peut intéresser les gens qui écoutent, c'est comment vous arrivez à travailler sur votre état d'esprit pour passer ces longues périodes.
Ça va faire très cliché, je pense que maintenant tout ce qui est le soin de soi, c'est un peu tout le monde qui fait ça, c'est la méditation, écrire dans un journal, des fois juste prendre quelques jours au soleil, très franchement, partir, aller prendre un week-end quelque part où on sait qu'il va y avoir du soleil pour récupérer un peu, se faire faire des massages, j'adore faire ça, c'est quelque chose que j'adore, me faire faire des massages, tout ce qui peut faire qu'on se sent bien soi-même. Moi, j'adore danser, donc je danse énormément, quelle que soit la
D'accord.
saison. Donc en hiver, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur. Oui, quand le temps est comme ça, il faut faire les choses qu'on aime le plus possible pour être dans un état d'esprit où, bon, c'est l'hiver, c'est gloomy, on a un peu le blues, mais on continue quand même parce qu'on s'amuse.
Ouais, je pense que c'est pas mal parce qu'effectivement, les gens, puisque Get More s'adresse pas mal à des chefs d'entreprise et des entrepreneurs, et c'est de prendre le temps, c'est d'apprendre à prendre du temps pour soi. Enfin, je pense que vous en êtes d'accord.
Ah, tout à fait, parce que dès qu'on ne le fait pas, eh ben, on le sent malheureusement très fortement. Et ça peut vite devenir quelque chose qui vous impacte physiquement. que ce soit la fatigue mentale, la fatigue physique, que si on ne prend pas le temps pour ça, on va le sentir. Moi, je sais que je le sens dans mon corps quand je prends pas le temps de m'arrêter et de prendre soin de moi. C'est les moments où on devient moins patient, au final, on est moins efficace, moins productif. Donc, il faut prendre soin de ça et ça calme un petit peu.
Ok, alors on va passer. Alors, vous avez dit que vous étiez en support parce que vous aimez aider les gens, mais expliquez-nous un peu plus ce que vous faites et pourquoi vous faites ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Parce que vous aviez plein d'options.
C'est un peu par hasard, franchement, parce que je finissais mes études en communication et pour être plus quelque chose comme community manager.
Ouais.
Et on m'a proposé un emploi dans l'entreprise Apple à Cork.
Okay.
Moi, bien sûr, j'ai cru que c'était une blague, mais je me suis dit, OK, prenons cette opportunité. Et ce qui devait être quelque chose que je faisais pendant un an est devenu un peu une carrière. Et du coup, effectivement, donc le service client, c'est prendre des appels téléphoniques de personnes qui ont des soucis avec leurs appareils quand on est chez Apple, ou maintenant que je travaille chez LinkedIn, c'est simplement répondre à des questions quant au fonctionnement de la plateforme. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, aider les personnes à du coup résoudre ce problème. Fournir des conseils, essayer un maximum de trouver des solutions où l'entreprise est gagnante, mais aussi le client qui le contacte. Donc c'est très challenging parce que, bon, bah, service client, les gens, quand ils pensent à ça, généralement, ils pensent juste à la musique d'attente extrêmement énervante et à la personne qui ne va pas leur donner la réponse qu'ils attendent.
Ouais.
Donc forcément, ils ne sont pas très... On va dire qu'il y a beaucoup d'empathie envers les personnes qui travaillent en service client, mais la vérité, c'est que derrière, il y a toujours des êtres humains qui veulent faire de leur mieux, qui veulent
Ouais.
trouver des solutions, mais des fois n'ont pas d'autre choix que de dire non.
D'accord. Et comment vous emmenez les gens à comprendre que non, c'est une réponse acceptable? Comment, qu'est-ce qui vous permet d'arriver à ce qu'ils acceptent? Parce qu'autant,
Ah, des
quand
fois, ils
ils ont la
n'acceptent pas.
solution, ils sont contents, ils s'en vont. Et pour l'autre cas, alors?
Oh, des fois, ils n'acceptent pas et c'est là qu'il faut faire preuve d'une énorme patience parce qu'on va se répéter, se répéter, se répéter. Et je suis quelqu'un de très... Je fais de mon mieux, mais des fois, je prends vraiment personnellement parce que je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais et que c'est simplement que pour cette situation-là, cette question, il n'y a pas d'autre réponse que non ou qui c'est pas quelque chose qu'on peut changer. Ou des fois même que la responsabilité est envers, c'est l'autre personne qui est responsable de la situation. Donc,
D'accord.
on essaye d'expliquer un maximum. Des fois, les gens acceptent simplement parce qu'on est très honnête dans notre réponse. Si on explique par A plus B, qu'on a fait, suivi toutes les procédures et que malheureusement, la réponse, c'est non. Et des fois, les personnes n'acceptent pas. Et là, faut être patient. Et puis, à un moment, faut malheureusement faire preuve de fermeté et simplement expliquer que c'est une réponse définitive. On peut en parler pendant des jours et des jours, mais ça ne change à rien puisque cette réponse-là est la réponse finale.
Et alors, comme on est nombreux à être sur LinkedIn, quels conseils pouvez-vous donner aux auditeurs par rapport à LinkedIn, par rapport à l'usage qu'ils en font? Parce qu'on se rend compte quand même que parfois, il y a des périodes où c'est un peu la foire au grand n'importe quoi, non pas de la part de la plateforme elle-même, hein, mais de profils. Clairement, prétendument, de personnes qui ont 40 ans d'expérience, mais qui mettent une photo où elles ont 20 ans et clairement chinoises, mais qui utilisent le profil de leur patron. Enfin, bref, voilà. On se retrouve avec ce genre de gags. Vous gérez ça comment et quels conseils pouvez-vous donner pour bien utiliser LinkedIn, justement?
Premier conseil, complétez votre profil. Un profil complet, visitez plus souvent qu'un profil incomplet. Et effectivement, soyez honnête dans votre présentation. C'est ce que vous avez décrit, c'est une infraction. Et si nous, on tombe dessus, ben, ce compte-là est vraiment impacté par nos règles, donc on va le retirer. Mais il est important de se représenter honnêtement et de façon authentique. Soyez vous-même, complétez votre profil. Et effectivement, soyez intelligent dans la façon dont vous augmentez votre réseau. Le but, c'est de vous connecter à des personnes que vous connaissiez ou qui peuvent vous ouvrir des portes. Donc, se connecter à tout va avec des personnes sans qu'il y ait d'intérêt, enfin, oui, sans qu'il y ait d'intérêt derrière ou sans qu'il y ait vraiment, on va dire, une raison pour cette connexion n'est pas une bonne idée. Parce que déjà, quand vous envoyez une invitation pour vous connecter, le mieux, ce serait d'écrire un message. Et quand vous écrivez un message, il faut un peu donner la raison pour laquelle vous souhaitez que cette personne appartienne à votre réseau. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens fassent un peu plus intelligemment. Je sais qu'on veut tous avoir un réseau de 30 000 personnes et atteindre la limite pour être super visible et devenir l'influenceur de LinkedIn. Mais la façon de le faire, c'est justement d'avoir ce réseau de personnes qu'on connaît, qui nous apportent quelque chose, avec qui on a un engagement, une conversation, même si c'est 2 minutes pour dire oh, félicitations pour votre promotion, comment allez-vous, etc. Des messages de temps en temps. Très franchement, mon réseau, j'ai dépassé les 1 000 personnes. J'envoie pas forcément de messages à ces 1 000 personnes, mais il y a énormément de personnes avec qui je vais interagir sur leur contenu, où on va interagir par message, où on s'est connecté parce que on travaille sur un projet et on a décidé de se connecter après ce projet-là, ou parce que moi, je travaille sur un projet et ces personnes peuvent apporter quelque chose à ce projet. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important.
D'accord. Ouais, parce que quelque part, moi, ce que je dis toujours, c'est que sur LinkedIn, on se fait briller quand même. C'est, tous les profils sont magnifiques, tout le monde est beau, tout le monde y est grand, tout le monde y est gentil. Et les gens ont quelque part peur d'être humains, non? Ou est-ce que c'est du pur
Je pense
marketing qu'on doit faire?
c'est du pur marketing, mais ce que les gens me disent, c'est qu'il faut être authentique. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui est très. J'ai remarqué, bon, il y a des différences entre les marchés, évidemment, entre les pays, etc., culturels. Mais j'ai remarqué que c'est quelque chose, par exemple, chez nous, les Français, on a vraiment du mal. Parce que c'est un peu mal vu de se faire mousser comme ça. On n'aime pas, nous. Quelqu'un qui se fait mousser, on dit, ah, c'est un vantard.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il fait? Ça raconte un peu. Donc, c'est quelque chose, culturellement, ça nous fait grincer des dents. Mais il ne s'agit pas de se vanter, il ne s'agit pas de se faire rouster, il s'agit d'être capable de voir nos accomplissements. C'est quelque chose que moi, j'ai mis beaucoup de temps à faire
Ouais.
parce que culturellement, on nous a appris que ce n'était pas bien de. Si on n'est pas le numéro un, on n'est pas censé se vanter ou on n'est pas censé dire oh, j'ai accompli ça. Mais si on a accompli des choses, et LinkedIn, c'est un espace où on a le droit de dire voilà ce que j'ai accompli, voilà ce que j'en ai appris. Voilà l'échec que j'ai eu, c'est ce que j'en ai appris, et on peut le partager avec d'autres personnes. Est-ce que tout le monde va être intéressé? Non.
Non.
Mais il faut pas écrire pour que les gens soient intéressés, il faut écrire ce que nous, on a envie, et les gens intéressés vont venir voir ce contenu. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, il faut être authentique. Il faut pas chercher à faire que ce soit tout shiny et tout beau. Les échecs sont aussi sur la plateforme, on les voit. Moi, je vois beaucoup de contenu où les gens parlent de leurs échecs. Ça n'a pas toujours marché. Des fois, l'échec, ça va être que le contenu, personne ne va le voir. Mais tant qu'on reste authentique, généralement, ça fonctionne pas mal.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a permis, vous, de vous éloigner de cette pensée si je n'ai pas bien fait, il ne faut pas que j'en parle.
Très franchement, c'est travailler dans les pays anglo-saxons. Ils sont très dans. Et c'était très difficile pour moi. Ils sont vraiment très dans. Quand il s'agit de leur management, ils sont très dans comme si on donnait des points, vous voyez? Un peu comme on vous donne des étoiles pour avoir ci, on vous donne des étoiles pour avoir fait ça. Et au début, moi, ça me mettait très mal à l'aise. Oh oui, t'as fait un excellent travail. Enfin, franchement, je suis ravie et je l'ai regardée en me disant, mais j'ai rien fait de particulier, j'ai fait mon travail en fait. Et du coup, ça m'était mal à l'aise. Et maintenant, j'accepte le fait que oui, c'est mon travail, mais c'est pas tout le monde qui va vouloir le faire correctement. C'est pas tout le monde qui va vouloir donner plus que nécessaire. C'est pas tout le monde qui va faire le travail de la façon dont je le fais parce que je suis une personne qui est unique. Donc, j'accepte ces compliments-là. Je vois mes accomplissements de façon différente, on va dire. Parce qu'avant, c'était juste une tâche. Et oui, elle a été accomplie. Mais du coup, je m'arrêtais pas pour me dire, j'ai accompli cette tâche. J'ai d'autres tâches à accomplir derrière. Et c'était ça qui posait problème. Parce que du coup, on me remerciait, on me félicitait. Mais moi, j'étais là, les gars, j'ai pas fini. Je suis passée à autre chose déjà. J'ai une autre tâche à accomplir. Et maintenant, je prends le temps de m'arrêter et de me dire, oula, là, j'ai fini ce projet. Je suis vraiment contente de moi. C'était dur parce que c'était quelque chose que je ne savais pas faire avant. J'ai eu vraiment peur d'échouer parce que je ne savais pas faire, mais j'y suis arrivée quand même. Donc, c'est important de prendre le temps de reconnaître ça.
Et comment vous passez outre la peur d'échouer?
En demandant de l'aide, parce que très franchement, la peur de l'échec, elle vient, pour moi, elle revient quand je ne sais pas quelque chose, quand je ne suis pas sûre d'être capable de faire quelque chose. Et du coup, cette peur de l'échec, elle peut vraiment soit m'empêcher de faire quoi que ce soit, parce que du coup, bah, on a tellement peur de pas bien faire qu'on ne fait rien. Ou alors, elle peut vous motiver à apprendre, et moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est que j'essaie d'apprendre à chaque fois. Je ne sais pas faire quelque chose très bien. Qui sait le faire? Qui l'a déjà fait? Je trouve cette personne, je vais poser des questions. J'obtiens les réponses dont j'ai besoin. J'essaie de faire quelque chose. Je demande à une autre personne de vérifier si ça semble correct. Puis à la fin, généralement, bah, ça se passe plutôt bien puisque j'ai appris à faire la chose moi-même. Je peux le faire la prochaine fois toute seule. Et j'ai fini le projet. Donc, la peur était là, mais quand on a peur, c'est simplement parce qu'on est devant quelque chose d'inconnu. Et il faut passer outre cette peur de l'inconnu pour apprendre.
Et
Donc,
qu'est-ce qui... Parce que même si, souvent les gens qui, quand ils ont peur, ils préfèrent rester dans cet état-là et ne pas avancer. Qu'est-ce qui vous permet, vous, de passer outre ou de vous dire, cette peur, je vais la repousser, je vais apprendre et je vais avancer. Parce que c'est pas évident comme décision à prendre.
Je pense que c'est parce que je me souviens toujours que j'ai déjà eu peur avant et que j'essaye de me rappeler quelle était la conséquence la plus terrible qui ait pu m'arriver en ayant eu peur ou en ayant échoué à quelque chose. J'ai déjà échoué, incroyablement. Quand j'étais bachelière, je voulais rentrer à Sciences Po. J'ai pas réussi le concours. C'est un concours qui reçoit tellement de personnes. J'ai pas réussi. Très franchement, ça m'a un peu brisé le cœur. J'étais quelqu'un qui, à l'école, essayait d'être première de la classe, etc. Ça m'a fait du mal. Je me suis rendu compte que j'étais pas si intelligente. Bien que, un concours, ça n'a pas vraiment l'intelligence, mais je me suis pas sentie très bien. Ça fait du mal à l'ego. Bon, bah, ça, j'ai échoué. Ça ne m'a pas empêché d'obtenir des diplômes. Ça m'a pas empêché aujourd'hui d'avoir deux licences et un master. Donc, je pense que il faut se rappeler des pires conséquences qui ont pu vous arriver quand vous avez échoué. Est-ce que si vous avez été renvoyé dans le travail parce que ils n'ont pas apprécié la façon de travailler ou ça ne cliquait pas, est-ce que ça a vraiment complètement arrêté votre vie ou est-ce que vous avez pu rebondir derrière et trouver un autre travail? Est-ce que si vous avez échoué à cette relation amoureuse, vous vous êtes retrouvé seul pour le restant de votre vie ou est-ce que vous avez trouvé quelqu'un plus tard dans votre vie et vous avez construit quelque chose de beau. C'est ce genre de choses qu'il faut voir pour dire, OK, j'ai peur là maintenant, mais ça ne veut pas dire que ce qui va arriver, ça va être négatif. Il faut pas tout de suite aller vers le négatif. Il faut se dire, j'ai peut-être peur juste parce que c'est quelque chose qui est inconnu, qui est excitant et je peux le faire.
Bien, ça c'est bien ça. Ça c'est beau. Et vous appliquez ça tous les jours, ou il y a des fois où c'est trop fatigant, où vous ne
Ah non, il
trouvez
y a des fois.
pas la marche.
Non, il y a des fois, c'est éreintant. Il y a des fois où on n'a juste plus envie. Il y a des fois où on se dit, c'est bon, là, je vais donner. On arrête, ça, je n'ai plus l'énergie, il faut que ça s'arrête. Ça m'arrive souvent hein, parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Je travaille, je fais du volontariat, je donne des cours de danse à côté. Donc, c'est pas comme si j'étais quelqu'un qui n'était pas. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Et il y a des moments où le fait d'être tout le temps en train de faire quelque chose, c'est fatigant et on a envie de dire stop. Ou même mon travail, du coup, à LinkedIn, c'est quelque chose, c'est une plateforme qui change tout le temps. Et du coup, vous imaginez bien que c'est du coup une entreprise où le changement, c'est quelque chose de perpétuel. En tant qu'être humain, on a tous une limite à l'acceptation du changement. Donc, du coup, c'est quand vous êtes dans une entreprise où le changement, c'est la norme, où c'est tous les jours le changement et qu'il faut accepter l'idée que tous les jours quelque chose peut arriver et complètement changer votre quotidien, c'est très fatigant. J'ai des jours où j'ouvre mon ordinateur et je me dis, je veux juste le fermer, quoi. C'est bon, on arrête, faut que je change d'entreprise, il me faut un autre travail, c'est plus possible. Parce que c'est trop de changements et que ça, j'ai atteint ma limite, c'est que j'ai pas pu, du coup, reprendre de l'énergie pour affronter tout ça. Et surtout, bon, parce que je dis affronter, mais affronter, ça voudrait dire que c'est un combat, non, pour juste accepter et laisser couler, en fait.
Ouais.
Il faut pas le combattre.
Faut s'adapter.
Ouais, c'est ça.
Alors, est-ce que vous avez une pensée profonde à partager avec les auditeurs?
Une pensée
Bien qu'il y en avait déjà plein dans toute la conversation, mais
profonde.
une de plus.
Une des plus. Je pense vraiment que les gens devraient réfléchir à ce qu'ils font de leur savoir. L'expression de savoir, c'est pouvoir, c'est pas. Moi, je considère que c'est une expression qui est vraiment très importante. Et aujourd'hui, on a des sources, genre, tellement importantes d'informations qu'il faut vraiment être conscient de bah, déjà quelles sources on utilise, de comment on l'utilise, et du coup, de comment les informations et la connaissance qu'on a, on la redonne dans le monde autour de soi. Moi, je vois des générations qui arrivent derrière, qui sont complètement différentes des générations qui sont en train de travailler actuellement. Et je pense que dans les deux camps, il faut un peu plus s'informer sur ce qui se passe dans chaque génération pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce
D'accord,
que
intéressant.
on va travailler ensemble à un moment. Et pour l'instant, je pense qu'on se connaît pas et qu'il y a toujours de toute façon cette les générations précédentes qui regardent un peu de haut en disant hey, les gars, moi je connais la vie, j'ai de l'expérience, donc vous n'allez pas m'apprendre la vie. Mais la vérité, c'est qu'on apprend les uns des autres.
Ouais.
Et que si on reste borné et fermé au changement, encore une fois, eh ben, on va juste se retrouver dans des situations pas très agréables. Donc, je pense, ma pensée profonde, c'est vraiment réfléchissez à ce que vous faites du savoir que vous avez. Et posez-vous la question, est-ce que votre héritage est vraiment celui que vous voulez laisser derrière vous quand vous partirez?
Joli. Merci beaucoup, Axel. Et si les gens ont envie de poursuivre cette conversation avec vous, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Sur LinkedIn, je suppose.
Sur LinkedIn, ils peuvent me trouver sur LinkedIn assez facilement. Mais je suis assez ouverte aux connexions. N'oubliez pas le petit message d'invitation. Très
Voilà.
important, le
Donc,
message personnalisé.
si vous voulez vous connecter avec Axel César, ça sera avec un message. Sinon, elle va pas se connecter avec vous. C'est ça?
Je me demandais qui est cette personne. Regardez les profils. Ça, vous allez avoir une visite de profil, il n'y a pas de souci. Mais de faire des recherches avant d'accepter l'invitation.
Excellent. Bah, Axel, merci beaucoup pour votre temps et pour partager ça avec nous. C'est un réel plaisir. Et puis, bah, on se retrouve bientôt. Je suppose que vous aurez le plaisir de repasser un de ces quatre sur le podcast.
Bah oui, avec plaisir, dans le futur, il n'y a pas de problème.